pour cette virée dans la littérature Coup de soleil. Vous êtes auditeur, auditrice. Nous sommes en compagnie de Monique Serrault-Chaibi et Fawzia Zedam. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour Hélène.
Alors, nous allons partir un peu du côté de l'Égypte avec Yasmine Khlat. Pas de commentaires, s'il vous plaît.
Non, c'est très bien.
Et son roman publié aux éditions Elizade, roman nous verrons tout à fait tout à l'heure si c'est un roman, Égypte 51 et en Algérie avec Akli Tadjer. Et son roman, on m'a enlevé le livre, La vérité attendra l'aurore aux éditions Lattès. Alors Fawzia, Monique, je crois, je vous sens prête là. Sur les starting blocks.
Mais on va pas se faire des politesses pendant une heure.
Mais
on
y va direct. Alors, la vérité. Alors,
on va commencer par Akli Tadjer, qui n'est pas tout à fait algérien.
Ah voilà.
Qui mais est
voilà.
d'origine algérienne, ouais. mais qui est né à Gentilly. C'est important parce que je dirai tout
la
à l'heure
pourquoi.
La suite
nous expliquera pourquoi. Voilà. Alors Monique.
Donc
Akli
il est né donc à Gentilly en 1954. De parents issus de la Kabylie, et il a quitté l'école à 16 ans. C'est important parce que il a travaillé.
Tout ce que vous dites est important, Monique. Nous savons, n'est-ce pas, Fawzia?
Absolument.
Là, on ne voit pas la radio, buvons, mais je rougis. Là.
Nous buvons
alors,
vos paroles.
Il a été coursier dans un journal hippique, et c'est grâce au rédacteur en chef qu'il avait un peu pris sous son aile, qui l'a encouragé à s'inscrire à l'école de journalisme, qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Il avait déjà repéré ses qualités d'écriture.
Voilà, donc il s'est inscrit à l'école du Louvre, rue du Louvre, et il a écrit son premier roman en 1985. Après un premier voyage sur les racines familiales.
À Alger même, ou c'est, vous savez
En Algérie, en Kabylie global. Surtout, ouais, puisqu'il est originaire de Kabylie. Et il en a retiré un livre qui s'appelle « Les Annies du Tassili ». Annie, ça veut dire les Algériens non identifiés, et ramenait les Algériens ou les Français, enfin, d'une rive à l'autre. Et donc, ce livre a été porté à l'écran. Alors, il n'a plus écrit pendant une quinzaine d'années, en tout cas pas de roman, parce qu'il a été un petit peu agacé par les commentaires, les interviews qu'il a fait où on le classait comme écrivain beurre. Or, lui ne supporte pas les étiquettes qu'on vous mette dans une case, dans une cage. Et donc, il s'est donc, grâce au fait que son livre est passé au cinéma, il s'est intéressé à l'écriture de scénarii. Et c'est en 2000 qu'il a écrit son second roman. Et alors, je vais venir à l'explication que j'annonçais tout à l'heure à l'introduction. En 2002, il a écrit Le Porteur de Cartable. Ce Porteur de Cartable, il y a une enseignante de la Somme qui a voulu le faire lire récemment à une classe de lycée. Or, les lycéens ont refusé de recevoir l'auteur parce qu'il était étranger, arabe. Et il y a même un élève qui refusait de lire un passage du texte parce qu'il y avait le nom Messaoud dedans.
C'est un lycée privé, un lycée public?
Non, c'est un lycée
public,
tout à fait.
Un lycée normal.
Voilà.
Normal,
oui. C'est normal, oui, c'est... malheureusement normal.
C'est
oui.
ça, c'est ça.
Et donc, au lieu de refuser d'y aller, au contraire, il a décidé d'aller à la rencontre de ses lycéens. Il en a tiré un essai, qui est donc le dernier écrit qu'il a publié. Ça s'appelle « Qui n'est pas raciste ici ?» Et il raconte...
Point d'interrogation.
Voilà. Et il raconte... C'est la première question qu'il a posée aux jeunes qu'il est allé voir. Et il raconte ce qui s'est passé là-bas. Et c'est très intéressant. C'est à lire. C'est à faire lire à des jeunes. Mm-hmm. Parce que c'est très important, justement, d'aller au-devant des jeunes et de casser les clichés. Alors, il n'a pas fait des miracles. Tous les enfants ne se sont pas tout à coup sentis capables d'ouvrir leurs portes à des gens issus de l'immigration. Mais il y en a quand même certains qui ont fait un petit peu un chemin en arrière et à qui ça a servi ce contact. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que, en plus, il parle un français bien meilleur que tous les jeunes devant lesquels il s'est retrouvé. Alors, Le Porteur de Cartable a eu un prix, le prix Méditerranée-Maghreb-Afrique. Et en 2008, bon, il a écrit d'autres livres entre deux, mais en 2008, il a écrit « Il était une fois, peut-être pas », que « À coup de soleil », nous avons primé avec notre coup de cœur. C'est à ce moment-là que nous l'avons connu, puisqu'il est venu chercher son prix à Montpellier. Bon, il a écrit d'autres livres, beaucoup se passent soit ici, soit là-bas, sont pas forcément des livres qui parlent uniquement de gens du Maghreb, hein, puisqu'il a écrit La Reine du Tango, enfin bon, d'autres livres. Il use beaucoup d'humour, mais derrière l'humour, on sent quand même qu'il y a des failles, des cicatrices et tout. Et donc, La vérité attendra l'aurore, son dernier roman, c'est celui que nous allons présenter. Il parle d'un ébéniste qui s'appelle Mohamed, qui est un homme dans la quarantaine, qui est célibataire, qui vit à Paris. Et il revient sur son passé. Il est issu d'un couple mal assorti, un père assez âgé et une mère qui n'a jamais beaucoup apprécié son mari, qui s'est contenté de dépenser tout l'argent qu'il gagnait en babioles, et qui n'a jamais aimé ce fils. Elle avait un deuxième fils, Liès, qui, au contraire, était une perle pour elle. En plus, il réussissait bien à l'école, il était beau, enfin, il avait toutes les qualités. Et donc, il a vécu ce syndrome du fils mal aimé, qu'il a toujours... il s'est cru, effectivement, moins intéressant, moins beau, moins intelligent que son frère. Alors, il vit ça, il a vécu ce que vivent beaucoup de gens dans la même situation que lui, un peu schizophrène, puisque à la maison, c'était la Kabylie, et qu'à l'école ou dans la rue, c'était la France. Donc, il était un peu partagé entre ces deux identités. Et le troisième point qui est important chez lui, c'est qu'il a vécu le syndrome du survivant, parce que quand Liès a eu 20 ans, ils étaient en Algérie en vacances. Ils ont voulu aller se balader pour fêter les 20 ans donc du frère. Donc il est parti seul avec lui. Ils se sont retrouvés devant une bande de djihadistes. Lui a réussi à fuir. Son frère était blessé. Il l'a laissé derrière. Il n'a pas réussi à le sauver. Et il reste avec cette empreinte de cette mort, on suppose, bien sûr de la haine qui devait être encore plus grande de sa mère envers lui. Et quand commence le roman, il est au cinéma où se sont passées beaucoup de choses de son enfance, où il allait avec Nelly, la jeune fille qu'il aimait et qu'il a perdue, justement après le retour d'Algérie, après la disparition de son frère. Il a laissé tomber cet amour qu'il a toujours regretté. Et il se trouve qu'un jour où il revisite le cinéma qui va être détruit, il rencontre à nouveau cette Nelly. Donc ça, c'est une première
étape.
Un premier choc vers quelque chose. Et puis le deuxième choc, il reçoit des messages d'une certaine Ouria, qui est en Algérie. Il ne sait pas qui c'est, ni rien, mais elle lui parle de son frère, elle lui parle de lui, elle lui parle de plein de choses. Donc,
elle le connaît.
Elle le connaît, elle sait beaucoup de choses de lui, et lui ne sait pas qui elle est. Donc je ne dirai pas qui elle est, parce que ça enlèverait une partie du plaisir de la lecture, mais il part en Algérie à la rencontre de cette Ouria. Voilà en gros ce que je peux dire, mais je vais laisser un peu parler ma collègue en face, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'endorme.
Je ne m'endormais pas, je t'écoutais.
Alors Fauzia, vous auriez des compléments, des informations?
Non, mais j'ai. C'est un livre qui fusionne. Voilà, c'est un livre pour moi qui aborde beaucoup de sujets. La disparition, l'amour, l'amour qu'il a pour son père, qui est... généralement, les filles sont plutôt un amour plutôt maternel. Oui. Là, il a un amour et un respect pour son père. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappée. C'est d'ailleurs, il dit mon père, mais quand il parle de sa mère, il dit la mère. D'ailleurs, pendant tout le livre, il la nomme par le la, pronom indéfini, la mère. Et il le dit très, très vite qu'il n'a pas de sentiments et que sa mère non plus ne l'apprécie pas. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a cette rencontre aussi avec cette Nelly qu'il va retrouver 25 ans après. Voilà. Et puis qu'en fin de compte, il était peut-être pas doué pour les études, mais en fin de compte, qu'il était habile de ses mains, puisqu'il est devenu menuisier.
C'est un grand artiste, même.
Et que c'est un art, qu'il est devenu un artiste, voilà, et qu'il fabrique des objets parce qu'il croit en le pouvoir, en l'âme des objets. Mmh. Quand il travaille, il y met tout son amour. Donc ça, pour ça, c'est des choses que moi-même je ressens particulièrement et que j'ai beaucoup appréciées. Mmh. Donc ça fusionne beaucoup. Puis forcément, il parle de cette Algérie, hein, de cette décennie noire qu'il y a eu en Algérie, où il y a eu des événements qui se recoupent aussi avec son histoire personnelle, la disparition de son frère, et de ce que ça a pu amener dans cette société algérienne.
Projet quand même sous-jacent de ce roman pour Akli Tadjer, selon vous?
Qu'est-ce que tu entends par le mot projet?
Un projet, est-ce qu'il veut démontrer quelque chose? Est-ce qu'il veut faire passer un message? Est-ce que... De quoi au fond est-ce qu'il parle à travers ces histoires de retour?
Le souci, c'est que le plus grand projet dont tu peux parler, on le découvre à la fin. Oui, parce que ça vient aussi de l'éducation, ça vient de la différence qu'il peut y avoir entre deux frères et leur destinée, qui n'est pas forcément celle qu'on pouvait attendre par rapport au départ. Et qui était le plus intelligent, qui était le plus équilibré, ça on le saura, mais à la fin.
Donc c'est peut-être ça trait de la famille au fond. Est-ce que ce serait son...
Moi je parlerais aussi de culpabilité qu'il a eue.
Ouais. Oui, je parlais de syndrome du survivant.
Voilà, exactement, de culpabilité qu'il a eue, qui l'a empêché de vivre.
Complètement.
Qu'il l'a vraiment cloisonné dans un mentalement.
C'est qu'il pour l'a ça empêché que d'aimer.
Monique parlait de schizophrénie, tout à fait. Qu'il l'a empêché d'aimer, de faire sa vie, de se marier, d'avoir des enfants, ou même, ou autre, ou de voyager, voilà. Et donc, espèce de culpabilité qu'il a eue en laissant son frère, frère qu'il a aimé. Il jouait quand même, parce que lui admirait. Se sentait. Il l'admirait, parce que donc, cette culpabilité qui l'a empêché, quoi, cette non-vie. Voilà, cette non-vie dans une vie, sa vie lui est passée au-dessus.
Un peu échappé. Voilà. Akli Tadjer, La vérité attendra l'aurore, aux éditions Lattès. Il va falloir qu'on achève cette présentation. Est-ce que, bien sûr, vous êtes frustrée?
Toujours.
On est toujours frustrés avec toi, il n'y a pas de problème. On est un peu masochiste, alors on aime la frustration.
La frustration a du bon. Je vous laisse présenter l'intermède musical, Monique.
Alors, il s'agit de Mozart l'Égyptien. Alors, j'ai fait exprès de choisir cet extrait parce que bon, j'aime bien, comme vous avez vu les fois précédentes, j'aime bien quand il y a un peu de cinéma aussi qui apparaît. Donc, il y a un lien entre les deux auteurs. Ça aussi, j'aime bien qu'il y ait un lien entre les auteurs. Il y a un lien entre les auteurs, c'est le cinéma, puisqu'on verra que l'écrivaine d'Égypte 51 a été actrice, documentariste, etc. Et Akli Tadjer, donc, est un scénariste assez prolixe. Et Mozart l'Égyptien, c'est donc sur l'Égypte, sur Mozart, et c'est donc la mixité, donc on en revient aussi à nos deux écrivains, qui vivent en France, mais qui viennent d'ailleurs, et Mozart, on le sait, avec sa musique, était très, très intéressé par tout ce qui était orientalisme. Alors, c'est une musique qui n'a pas toujours été appréciée par les puristes, les mozartiens, parce qu'ils disaient que c'était un bordel, je suis désolée, on ne voit pas les guillemets, mais je les mets. Moi, j'aime bien, parce que j'aime bien justement quand il y a comme ça une fusion d'idées qui viennent d'un peu partout.
Voilà. Allez, on écoute le choix de Monique.
Thank you.
Avec Mozart, nous sommes dans un aéropage coup de soleil en compagnie de Monique Serrochabi qui nous a présenté avec beaucoup de talent l'ouvrage d'Aclitadger, La vérité attendra l'aurore aux éditions Lattès. Et nous sommes aussi avec Fosia Zedam qui maintenant a elle de jouer, a elle de nous présenter Égypte 51 de Yasmine Khlat aux éditions Elizad.
J'aime bien cette prononciation.
Ah, je m'applique, hein. Je m'applique. Fosia.
Alors, oui, je vais vous présenter effectivement le livre de Yasmine Khlat, donc Égypte 51. Alors, c'est une écrivaine égyptienne, mais d'origine libanaise, syro-libanaise, qui est née donc en 59, donc à Ismaïlia, donc en Égypte, entre Port Saïd, hein, pour ceux qui connaissent la région, Port Saïd et Le Caire, et au bord du canal de Suez, effectivement. Donc elle a fait carrière, effectivement, comme disait Monique tout à l'heure, pour la transition entre ces deux livres. Elle a fait carrière dans le cinéma avant. Et puis avant de se consacrer à l'écriture. Alors moi, c'est la première fois que je lis un de ses livres et c'est une découverte, hein, je ne la connaissais pas du tout. Donc voilà. Donc c'est un roman qui est constitué de lettres. Hein, c'est ce qu'on appelle un roman épistolaire. C'est un roman qui se situe sur 25 ans, de 51 à
84
à peu près, effectivement, qui débute en Égypte et qui se finit au Liban. Mmh. Donc c'est voilà. Alors, qui traverse des époques, qui traverse des gouvernements, des pays, des frontières. C'est vraiment une sorte de valse de religion, une valse de
guerre.
Oui, de guerre, mais de religion, de communauté, de famille. Un vrai mélange, comme cette partie du monde est le reflet, ce mélange, cette mixité qu'on voit peut-être de l'extérieur avec un certain a priori, mais qui fourmille de choses, voilà, comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc il y a ce personnage de Mia qui... c'est une correspondance entre Mia, une jeune fille syro-libanaise, et puis un amoureux qui se présente à elle, qui s'appelle Stéphane, qui est médecin et qui est son aîné de 20 ans et qui souhaite effectivement se marier avec elle, qui vraiment a eu un flash pour cette Mia, comme on dit maintenant. Elle les conduit entre parenthèses au début. Et donc ils vont, voilà, le livre, ça va être une correspondance parce que lui ne vit pas effectivement à Ismaïlia. Et donc il va effectivement ils vont s'envoyer comme ça des messages qui va marquer tout au long de ce moment-là. Et à un moment donné, ils vont se marier, bien sûr. Et du coup, ils vont déménager. Donc ça va, cette correspondance va suivre. Et d'ailleurs, le livre commence par un gardien qui retrouve des correspondances à Monrovia, qui est la capitale du Libéria, parce qu'à un moment donné, ils s'établissent là. Il découvre ces correspondances et il va lire. C'est comme ça qu'on découvre cette flopée de lettres, cette flopée de vie, de famille comme ça. Et c'est un roman qui, à la fois de la tendresse, qui mêle la tendresse, la guerre... la beauté, mais aussi ce qui n'est pas beau, les sentiments, voilà, c'est toujours cette dualité. C'est un roman qui est duel dans les sentiments, dans les situations qui se passent, voilà. Mais c'est une espèce de fioriture, de culture, de bouillonnement, et c'est ça qui m'a énormément plu dans ce livre.
Monique.
Oui, ben c'est à peu près ce que je pourrais en dire. Donc lui, il est médecin. Et elle est... Bon, c'est une jeune fille fantasque, un peu capricieuse, qui joue beaucoup avec les sentiments de l'autre. Souvent, en plus, elle parle d'un amour qu'elle a éprouvé pour un autochtone qui n'est pas de son milieu et qu'elle a perdu de vue. Et elle, à chaque fois que lui commence à prendre espoir, elle reparle de cet homme qu'elle a entreaperçu et tout. Donc il y a quand même un suspense pendant longtemps. On ne sait pas s'ils vont finir par être mariés ou pas. D'ailleurs, c'est un mariage plus ou moins arrangé.
Est-elle amoureuse, Mia? Elle est amoureuse de ce médecin.
Je pense qu'à la fin, oui.
Elle finit par l'être au fur et à mesure.
Par lassitude.
Non, mais au fur et à mesure de...
On peut garder un souvenir d'un amour tout en ayant un autre. Mmh. Elle ne l'a pas aimé de la même manière, non, mais oui, elle l'aime si c'était un couple très uni. Mais, et donc, je disais que c'était un couple... C'était un mariage arrangé, oui, au départ, puisque c'est un prêtre qui les a mis en relation l'un et l'autre, qui justement avait trouvé qu'ils seraient bien assortis. Mm-hmm. C'est un livre plein de poésie, plein de jolies choses, qui se lit avec beaucoup de plaisir et qui coule tout seul. C'est, mm-hmm, vraiment un très joli roman.
Mm-hmm. Oui, et en plus, elle s'est inspirée de la correspondance de ses parents. Donc, c'est aussi un petit peu autobiographique, hein, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est un livre poétique, fin, simple, d'une grande sensibilité. On sent beaucoup de sensibilité. Et moi, je recommande franchement de le lire parce que c'est... Voilà, c'est voir l'Égypte aussi autrement, surtout pendant cette période-là, où dans les années 51, je veux dire, c'était au moment où il y avait Gamal Abdel Nasser qui était au pouvoir. Et puis avec tout ce qui s'est passé avec la nationalisation, effectivement, en arrière-plan d'ailleurs du livre, oui, il y a cette nationalisation du canal de Suez, avec tout ce qui s'est passé, hein, tous les pays européens qui souhaitaient mettre la mainmise sur le canal de Suez. Donc il y a en arrière-plan ça, l'exil aussi, qui parle aussi beaucoup d'exil, qui faisait partie de cette société égyptienne, parce que la société égyptienne à cette époque-là, c'était une société qui était diverse, qui était enrichie. Voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est de faire le point effectivement sur cette richesse culturelle, artistique. Et ce qui est marrant, c'est que pendant cette période-là, l'Égypte était aussi très riche culturellement. Je veux dire au niveau des films, je veux dire des chanteurs célèbres comme,
oui, tout ça
comme Abdelwahab,
bien sûr,
Al-Hafez et Farid El-Atrèche et Oum Kelsoum, voilà, je veux dire, c'est toute cette fusion où les femmes à cette époque-là, elles mettaient des mini-jupes, elles se promenaient au Caire, attablées à des terrasses de café, oui, cheveux au vent, et elles parlent de cette époque-là. Oui. Et moi, c'est ça qui m'a.
Il y a de la nostalgie dans ce livre.
Oui,
oui, oui, oui, oui, ça, oui, c'est certain.
Oui, 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 il y a de la nostalgie, de la tristesse, la tristesse de l'exil, de quitter un pays, une terre qui nous a vu naître. Parce qu'on parle de l'exil maintenant, mais l'exil, c'est très dur. D'ailleurs, dans le premier roman aussi
Aklitadjer,
pareil, on parle aussi de l'exil de ses parents lorsqu'ils sont partis d'Algérie. De leur Kabylie natale, où la mère, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais supporté, lorsqu'elle est arrivée en France, a été une déchirure. Voilà, cet exil qui est toujours présent et qui fera d'autres romans, parce que c'est vrai qu'on peut écrire des tas de romans dessus, c'est tellement profond, c'est tellement vivant dans la chair, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Et donc, c'est un roman qui est tout le temps, qui explore un peu toutes ces frontières-là, et que je trouve vraiment très intéressant, très riche. Et donc, à lire et relire.
Ou alors à découvrir les autres, puisque moi, je suis comme toi, c'est le premier que j'ai lu d'elle. Oui. Alors, il est chez Elizade, une maison d'édition tunisienne que je recommande fortement, parce qu'il y a énormément de bons écrivains chez Elizade. Et donc, Aklitadjer, lui, c'est chez Jean-Claude Lattès, mais Lattès est plus connu qu'Elizade.
En France, en tout cas.
En tout cas, en France, oui, tout à fait.
Eh bien, merci à toutes les deux. Merci,
merci.
Pour ces
merci choix à toi et à la prochaine.
Littéraire. À la prochaine avec impatience.
Au revoir.
Au revoir.